Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. Édouard Rosset.
Bonjour, je vous propose aujourd'hui de mettre à profit l'heure qui suit pour parler de géopolitique. Alors géopolitique, ou peut-être devrais-je dire plutôt géographie politique. Dernièrement, au Sénat, la Société nationale de géographie, décernait son prix 2003, Grand Prix 2003, qui salue cette fois-ci un membre de l'Académie des sciences morales et politiques, en l'occurrence Monsieur Thierry de Montbrial, notre invité, l'invité de l'émission Éclairage aujourd'hui. Thierry de Montbrial, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Canal Académie. Alors, faut-il le rappeler, directeur général de l'Institut français des relations internationales, vous avez été élu académicien en 1992. Et je dirais finalement que ce prix vient couronner une science, nous allons voir d'ailleurs si c'est réellement une science, qui est la vôtre au quotidien, chaque jour en effet, à travers vos ouvrages, vos travaux, à travers les colloques que vous organisez à l'IFRI, vous faites œuvre de pédagogie, celle qui consiste à expliquer, faire comprendre, nous faire comprendre tout simplement les grands enjeux du monde dans lequel nous vivons. Alors peut-être, monsieur de Montbrial, une définition pour commencer. Qu'appelle-t-on, qu'est-ce que finalement la géographie politique ?
Qu'appelle-t-on ? Je vais vous dire ce que j'appelle la géographie politique parce que il en est de la géographie politique comme de beaucoup de savoirs. Il n'y a pas forcément unanimité sur la définition et du reste, il n'y a pas lieu de s'en lamenter parce que philosophiquement, on sait bien que définir un sujet supposerait la connaissance parfaite de ce sujet, ce qui renvoie d'ailleurs au concept, à l'idée de concept primitif, je crois, chez Pascal. Mais enfin, bon, je ne veux pas trop faire de la philosophie là-dessus. Pour moi, la géographie politique, ce sont les problèmes praxéologiques, alors il va falloir que
on
je m'explique
revenir,
ce que j'appelle problèmes praxéologiques, dans lesquels il existe un enjeu territorial important. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un problème praxéologique ? Quand on s'intéresse au problème de l'action en général, que l'on soit un État, que l'on soit une entreprise, que l'on soit une association, que l'on soit une église et même un groupe terroriste, tout problème de l'action met en jeu un certain nombre d'acteurs de base et les plus significatifs d'entre eux, je les appelle unités actives. Alors une unité active, pour moi, ça, c'est un groupe humain d'abord, c'est un groupe humain. Et un groupe humain qui est caractérisé par deux éléments de structure, une culture et une organisation. Une culture au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire tous les comportements, les mœurs, si vous voulez, au sens mores, qui définissent le sentiment d'appartenance commun, les signes d'identité en quelque sorte. Et l'organisation, parce que la culture ne suffit pas, il faut qu'il y ait une organisation pour incarner en quelque sorte l'identité ou le sentiment d'appartenance.
Ce sont des groupes qui interagissent entre eux en fait.
Ben oui, si vous prenez n'importe quel problème économique par exemple, ça met en jeu, mettons d'abord des entreprises. Les entreprises sont des unités actives, il y a une culture, une organisation. IBM, grande entreprise multinationale américaine, a une culture, une culture. Culture extrêmement forte. Michelin, en France, a une culture. L'Institut de France, l'Académie des sciences morales et politiques sont des unités actives, sont des groupes humains, en l'occurrence petits du point de vue du nombre des hommes ou des femmes qui le constituent, mais avec une très forte culture et avec une organisation, et ainsi de suite. Et ce sont en effet ces unités actives, ces groupes donc structurés, par une culture commune et par une organisation qui interagit. Je veux dire, ces unités actives, elles peuvent a priori interagir sur toutes sortes de problèmes. Quand les entreprises, mettons, qui fabriquent des automobiles, interagissent autour de la question qui est le marché automobile. Et la géographie politique, donc pour moi, c'est des problèmes donc praxéologiques, ça vient de praxis, bien entendu, donc c'est relatif à l'action, donc d'interaction entre unités actives, mais où il y a une dimension territoriale importante. C'est donc là que la géographie intervient. Parce que qu'est-ce que c'est que la géographie ? C'est le rapport entre les hommes et les territoires, entre les hommes et la nature plus généralement. Mais la géographie elle-même, on y reviendra peut-être dans cette conversation, la géographie elle-même a beaucoup flotté. Quand vous regardez concrètement le travail des géographes au cours des siècles, depuis mettons Hérodote jusqu'à nos jours, on voit que la nature de leur activité ou de leur savoir a beaucoup varié au cours du temps, parce que les ingrédients varient aussi suivant les moments.
Alors, quand précisément la géographie politique est-elle apparue ? Vous expliquez, je crois qu'elle a gagné ses lettres de noblesse au moins dans le milieu universitaire. À quelle époque exactement ?
La géographie politique probablement a toujours existé. Hein. Vous trouvez de la géographie politique chez Aristote sans aucun doute. Et vous la trouvez chez toutes sortes d'auteurs anciens. Mais au sens moderne du terme, c'est au XIXe siècle. Et c'est au XIXe siècle avec notamment des auteurs allemands, je pense surtout à Ratzel, ou suédois, à Kvelent, ce sont des gens qui écrivaient tout à fait à la fin du XIXe siècle. Et c'est à ce moment-là que la géographie politique au sens moderne du terme est apparue.
Est-ce qu'elle a une définition vraiment précise aujourd'hui, ou plutôt une identité ? Peut-on dire, Thierry de Montbrial, que la géographie en tant que telle cherche aujourd'hui encore une certaine identité, son identité?
Oui, je pense que la géographie cherche son identité parce que c'est une discipline essentiellement pluridisciplinaire. Et comme toute discipline pluridisciplinaire, je fais exprès de répéter discipline et le mot discipline dans pluridisciplinaire, et il y a un problème d'identité tout simplement parce que c'est comme une recette de cuisine. Les proportions, les ingrédients que vous mettez dedans peuvent varier et ça change un peu la nature du plat. Par exemple, au début du XXe siècle, au début du siècle dernier, l'école géographique française était dominée par des gens dont probablement le plus connu est Paul Vidal de Lablache, enfin il y en a eu d'autres. Et quand vous regardez, aujourd'hui c'est très intéressant d'ailleurs de regarder un petit peu en détail les œuvres de ces grands universitaires, vous voyez que ce qui dominait c'était la géographie, qu'on appelle la géographie physique. La géographie physique, c'est-à-dire les problèmes relatifs à la géologie, la morphologie, le terrain, les climats, etc. Et vous voyez dans ses travaux des centaines de pages où il n'est question que de disciplines qu'on ne classerait certainement pas aujourd'hui dans la géographie. On les classerait dans les sciences de la Terre. En termes académiques, les gens qui s'en occupent, ce n'est pas l'Académie des sciences morales et politiques qu'on les trouve, c'est à l'Académie des sciences, les géologues, etc. La climatologie, ce sont tous ces domaines. Aujourd'hui, on classe ça dans les sciences de la Terre ou les sciences de l'univers, d'ailleurs plus généralement. Et ce sont des domaines où l'homme, en fait, intervient peu. Alors, le propre de la géographie, c'est l'interaction entre l'homme et la Terre. Pour prendre un auteur d'ailleurs plus récent, qui a été extrêmement célèbre, qui est d'ailleurs toujours extrêmement célèbre, Fernand Braudel. Fernand Braudel est connu comme historien. En fait, il était géographe au moins autant qu'historien. Et son premier grand travail, qui est l'étude de la Méditerranée au temps de Philippe II, trois gros volumes d'environ 600 ou 700 pages chacun. Et quand vous ouvrez le premier volume, vous constatez que plus de la moitié de ce livre est de la géographie physique. Ça a très peu de choses à voir avec les hommes. Enfin, les hommes y sont, bien entendu, mais on sent que la géographie physique, au sens un peu de Vidal de Lablache, l'a marqué profondément. Donc, en effet, la géographie a un problème d'identité, et comme toute chose dans ce bas monde évolue par cycle, on a vu à la fin du XXe siècle le contrepoint radical de la vision du début, c'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment l'accent sur la géographie dite physique. À la fin du XXe siècle, des géographes comme Roger Brunet en France oublient quasiment complètement la géographie physique. Il n'est plus question que de maillage. Les régions, par exemple, chez Vidal de Lablache, les régions sont définies à partir de critères essentiellement physiques. Ce sont les tentatives de définition à partir de critères physiques. Chez Roger Brunet, donc géographe contemporain, il ramène toute notion de région à des considérations purement administratives. Alors évidemment, si vous voyez les 22 régions qui constituent aujourd'hui la division territoriale de la France, il n'y a aucune difficulté à définir ces régions, puisque ce sont simplement des définitions administratives largement arbitraires. On est passé, voyez-vous, d'un extrême à l'autre.
A-t-elle toujours été considérée comme une science, cette géographie ?
Vous savez, qu'est-ce que c'est qu'une science ? Il y a toujours eu un débat épistémologique sur la notion de science. En France, par exemple, l'économie est très difficilement, commence à tout petit peu être reconnue comme une science, et je crois que l'Académie des sciences a commencé à faire une toute petite place à l'économie, et encore essentiellement sous l'angle de l'économie mathématique et de la statistique, alors que dans un pays comme la Russie, par exemple, ex-Union soviétique, là, il n'y a aucune difficulté à considérer la science économique justement comme une science. Donc la notion de science est une notion très difficile à cerner sur le plan purement épistémologique. Mais si on considère qu'une science, c'est un ensemble de savoirs où il y a de la méthode, où il y a un aspect empirique, c'est-à-dire des données objectives et des raisonnements qui permettent de confronter des observations à des schémas conceptuels, je crois qu'on peut parfaitement admettre que la géographie soit une science. Maintenant, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'abus. Vous savez, c'est en géographie comme dans beaucoup de domaines, il y a des gens qui s'appuient sur l'idée de la science pour énoncer en réalité des opinions et souvent pour sombrer dans des idéologies, ce qui nous ramène d'ailleurs à la géographie politique et à ses déviations ultérieures sous le nom de géopolitique.
Oui, alors nous allons y revenir également, mais est-ce qu'il y a, Thierry de Montbrial, une conception, je dirais, un petit peu nationale, par pays, pourquoi pas même au sein de l'Europe, une conception vraiment typique à chaque pays de la géopolitique, enfin de la géographie politique, pardon. Est-ce qu'il y a un cas allemand, par exemple ? Est-ce qu'il y a un cas vraiment français ?
Votre hésitation sémantique est elle-même très révélatrice et on aura l'occasion, je pense, de le développer puisque vous avez employé le mot géographie politique et en observant mon regard, vous vous êtes aussitôt repris sur géopolitique pour revenir sur géographie politique.
J'ai eu les gros yeux.
Alors justement, c'est là le problème. Je pense que si on définit, comme je le propose, la géographie politique comme les problèmes praxéologiques, ou en fait, qui sont d'ailleurs des problèmes politiques. Il faut dire que, je parlais tout à l'heure de la notion d'unité active, moi j'appelle unité politique une unité active qui se considère souveraine. Les États sont typiquement des unités politiques. Et la plupart des problèmes classiques de la politique qu'on met en jeu des unités politiques. Et quand il y a plusieurs unités politiques, ça donne les relations internationales. Et quand dans les relations internationales, la dimension territoriale est particulièrement importante, on est en plein dans la géographie politique. Alors on peut avoir sur ces questions un regard objectif et on peut avoir un regard relatif et même idéologique. Et pour moi, par exemple, je fais très clairement la distinction entre la géographie politique et la géopolitique. J'appelle géopolitique les idéologies relatives au territoire. Et dans l'histoire, en général, les idéologies relatives au territoire ont toujours joué un rôle absolument considérable. Alors ça ramène à votre question qui est effectivement tout à fait intéressante. Est-ce qu'on peut être complètement objectif ? Alors le mieux, c'est que je vous donne un exemple. Si on prend aujourd'hui la construction européenne, c'est-à-dire l'édification de l'Union européenne, telle qu'on en parle en permanence, eh bien moi, qui suis devant vous, je suis un chaud partisan de cette construction européenne et je me considère même comme engagé dans ce combat et je le considère même comme le plus beau combat politique du XXe siècle.
Et le processus d'élargissement notamment, etc.
Le processus d'élargissement est un aspect. Mais donc disons que toute la construction, tout l'idéal et même l'idéologie, voyez-vous, je n'hésite pas à le dire, de la construction européenne est une idéologie que je partage. Par conséquent, en tant que citoyen, je suis lucidement, j'accepte totalement d'être reconnu comme engagé dans une idéologie. Idéologie, d'ailleurs, l'idéologie, c'est pas forcément négatif. Hein, c'est l'idéologie, c'est les idées. Donc, je suis effectivement engagé dans cette idéologie. Maintenant, en tant qu'analyste, quand je théorise sur les relations internationales ou quand je théorise sur la géographie politique ou sur la géopolitique, je me distancie et je dis « c'est une idéologie, parmi d'autres ». Et par exemple, en France, dans notre pays, il y a encore beaucoup de gens, et des gens extrêmement respectables et distingués, qui rejettent l'idéologie de la construction européenne et qui développe un autre type d'idéologie qui est, par exemple, l'idéologie nationale ou voire nationaliste héritée des derniers siècles. Eh bien, on peut parfaitement, et c'est là d'ailleurs toute la subtilité de la chose, on peut parfaitement adhérer à une idéologie et en même temps se distancer pour la commenter de l'extérieur. En même temps, ce qui est vrai aussi, c'est que cette distanciation ne peut jamais être totale. Et c'est un grand problème des sciences sociales que Max Weber, d'ailleurs, avait analysé en son temps. C'était la question de ce qu'il appelait de l'indépendance axiologique. Est-il possible, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines ou les sciences sociales, de travailler d'une manière objective, c'est-à-dire sans être prisonnier d'un système idéologique? Alors, c'est certainement beaucoup plus difficile dans les sciences, j'emploie le mot science avec tous les guillemets de la Terre, compte tenu de ce que nous disions tout à l'heure, c'est certainement beaucoup plus difficile dans les sciences humaines ou sociales que dans les sciences de la nature.
Alors idéologie, là peut-être encore avec des guillemets, on comprend mieux cette géographie politique en ce moment au Proche-Orient ?
On peut analyser les problèmes du Proche-Orient de différents points de vue. On peut les analyser du point de vue des relations internationales en général, c'est-à-dire un problème d'interaction conflictuelle, plus ou moins conflictuelle, entre un certain nombre d'unités politiques. Unités politiques qui sont principalement des États, mais pas seulement des États. Je pense, par exemple, mettons l'autorité palestinienne, par exemple, où disons les Palestiniens aujourd'hui ne constituent pas encore, en tout cas, un État. Mais on peut aussi les regarder du point de vue de la géopolitique, c'est-à-dire toujours dans ma terminologie, de l'idéologie relative au territoire. Il est certain que pour les gens du Likoud ou pour l'extrême droite du Likoud en Israël, l'idéologie territoriale est extrêmement différente de celle, par exemple, qu'a Shimon Peres développée ces dernières années. Je veux dire que l'idéologie du Likoud, c'est le Eretz Israël, c'est le grand Israël, qui se réfère donc à une vision territoriale qui nous ramène à l'Antiquité ou l'idée qu'on s'en fait. Et la vision développée au moins à un certain moment par Shimon Peres au début des années 90, c'est une idéologie beaucoup plus proche en fait de l'inspiration de l'idéologie européenne, c'est-à-dire une idéologie, une vision où les territoires sont juxtaposés avec quelque chose qui ressemble largement à la libre circulation des biens, des services et des personnes. Donc là, nous avons deux visions extrêmement différentes. Et si je pousse même encore d'un cran plus loin, vous voyez que dans la notion même d'État hébreu, qui est d'ailleurs, c'est probablement le plus grand problème politique pour l'avenir d'Israël, et tout le monde le sait, c'est comment peut-on, sur le long terme, avoir un État qui soit défini sur une notion ethnique, qui repose entièrement sur une notion ethnique. C'est-à-dire comment peut-on, pour être encore plus précis, sur le long terme, faire reposer l'existence d'un État sur le critère d'être juif, ou pour être encore plus précis, être juif et démocratique, car c'est ça, l'État israélien actuel est un État démocratique, c'est l'État juif et démocratique. Est-il possible de rester sur 50, 100 ou 200 ans juif et démocratique ? C'est tout l'enjeu de la question. Mais on voit bien que derrière ça, il y a effectivement des problèmes qui sont des problèmes idéologiques et par conséquent, dans ma terminologie, des problèmes géopolitiques.
Thierry de Montbrial, pour bien comprendre... je dirais, votre cheminement, votre travail intellectuel, philosophique autour de cette question. Vous disiez, d'ailleurs, je me réfère directement à votre intervention lorsque vous avez reçu ce grand prix de la Société nationale de géographie, vous disiez qu'au fil du temps, vous vous êtes forgé votre propre conception de la géographie politique. Quel a été ce cheminement intellectuel ?
Ce cheminement intellectuel, bon, quelques mots d'abord. Moi-même, je suis mathématicien d'origine et toujours fier de cette origine-là et même extrémité. Je vais me faire une confidence et qu'il n'y a probablement pas, il n'y a même pas de jour que Dieu fait où je ne fasse un minimum de mathématiques. Vous voyez, encore, ça, oserais-je dire que ça me détend. Chacun s'amuse comme il peut, n'est-ce pas ? Disons que je suis en tout cas originaire des sciences dures et j'ai toujours eu beaucoup d'attirance pour les disciplines scientifiques au sens, alors là, le plus traditionnel du terme. J'aurais pu être probablement mathématicien et si j'avais fait de la physique, ça aurait été la physique théorique d'ailleurs, plus que de la physique expérimentale où je me serais certainement électrocuté à la première des manipulations et où j'aurais fait exploser les préparations chimiques ou que sais-je. Mais en même temps, j'ai toujours été attiré par la compréhension du active du monde contemporain, ce qui m'a amené à être un peu au commissariat général du plan et puis surtout à créer en 1973, donc il y a 31 ans maintenant, ce qu'on appelle le Centre d'analyse et de prévision au Quai d'Orsay, qui est la cellule de réflexion du ministre des Affaires étrangères, qui existe toujours, qui a eu une très belle carrière depuis. Et puis, en 1979, j'ai créé l'Institut français des relations internationales, qui est, lui, indépendant, l'Institut de recherche et de débat indépendant. Alors, j'ai appris, si vous voulez, j'ai appris tous ces problèmes politiques, politiques d'ailleurs, au sens le plus large du terme, mais de politique internationale, plus particulièrement, je les ai appris d'abord sur le tas. Et j'ai progressivement lu la littérature, j'ai eu la chance de me frotter pendant plus de 30 ans aux plus grands penseurs dans ces domaines, en France malheureusement peu nombreux, et surtout dans le vaste monde, notamment aux États-Unis, mais aussi dans bien d'autres pays. Et j'ai également énormément voyagé, beaucoup rencontré donc de personnalités, été sur le terrain, etc. Et j'étais pas très à l'aise parce que tout ce que je sentais, tout ce que j'analysais, et surtout avec ma grille intellectuelle initiale, ne collait pas très bien avec la littérature que j'absorbais progressivement. Et c'est pourquoi...
Donc il y avait un besoin de clarification.
Donc j'avais un besoin de créer mes propres outils. Ça a donné, après de longues années, un livre qui est paru en 2002 et qui vient d'être réédité, qui s'appelle « L'action et le système du monde », dans lequel j'ai essayé de formuler ma vision théorique, mais en même temps très soutenue par des exemples concrets. C'est d'ailleurs là où l'on retrouve... dans son inspiration, la méthode scientifique, c'est-à-dire un cadre théorique, des observations et un effort pour rapprocher la théorisation de l'observation concrète. Alors, c'est ça, en effet, que je veux dire en disant que je me suis fait ma propre idée de la géographie politique. Et là, on parlait de la distinction géographie politique-géopolitique. Aujourd'hui, tout le monde parle de géopolitique. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 80, le terme même de géopolitique était banni. On n'en parlait pas.
Pourquoi ?
Eh bien, à cause des souvenirs de la géopolitique allemande, justement, de l'entre-deux-guerres. Je parlais tout à l'heure de Ratzel, Friedrich Ratzel, qui était le fondateur avec le Suédois Kvelen de la géographie politique. Mais il y avait déjà, même chez un auteur comme Ratzel, et beaucoup plus chez un auteur allemand célèbre comme Haushofer, qui lui a si j'ose dire, succédé, de professeur à Munich, il y avait une intention qui était une intention, elle, essentiellement idéologique, et qui, en fait, a soutenu toute la démarche nazie. C'est-à-dire que la géopolitique allemande, et on parlait de géopolitique, on parlait d'ailleurs pratiquement pas de géopolitique sans ajouter allemande, était un instrument de propagande, et alors qu'elle avait des origines assez intéressantes, même sur le plan scientifique. Chez Ratzel, par exemple, il y a des concepts qui sont toujours des concepts intéressants et utilisables, on pourra en reparler, mais tout cela a été progressivement dévié et mis au service de l'idéologie allemande, et notamment de l'idéologie d'expansion territoriale. Alors, il y a eu quelques tentatives de réaction. Par exemple, en France, Vidal de la Blache lui-même, dont nous parlions au début de l'émission, a tenté de réagir. Le célèbre André Siegfried a également tenté de réagir. Siegfried, qui d'ailleurs lui-même était très très marqué par la vision Vidal de la Blachienne de la géographie, puisque quand on regarde ses livres, on voit bien que la géographie physique est extrêmement importante chez lui. Et je pense surtout à un auteur modeste qui est insuffisamment connu, qui s'appelait plutôt Jacques Ancel, A-N-C-E-L, et qui a tenté aussi de réagir par certains écrits, notamment un petit livre paru juste avant la guerre qui s'appelait Géopolitique, tout simplement, qui est une réaction contre la géopolitique allemande. Mais il n'empêche qu'avec les drames de la Seconde Guerre mondiale, tout cet héritage allemand de la géopolitique a été complètement discrédité.
Il y a une rupture.
Et avec lui, la géopolitique elle-même. Oui.
Donc changement de conception, on peut la dater, ce changement on peut le dater donc de la Deuxième Guerre mondiale.
Enfin de l'entre-deux-guerres. La Deuxième Guerre mondiale étant l'aboutissement absurde. Tiens, le drame, n'est-ce pas, ça nous ramène incidemment à l'Europe et la construction européenne. Si je suis personnellement, comme bien d'autres évidemment, un chaud partisan de la construction européenne, c'est parce que je sais, hélas, que les idéologies nationales ont sombré dans les nationalismes et ont conduit au cataclysme du XXe siècle. Et que c'est justement tout cela qu'il faut dépasser. Et donc la géopolitique s'étant trouvée identifiée avec les extensions les plus monstrueuses et les plus absurdes du nationalisme, et je vous dis que la notion même de géopolitique a disparu et on ne l'a retrouvée qu'au début des années 80. Moi, quand je faisais mes débuts dans ce domaine, c'est-à-dire au début des années 70, on ne parlait pas de géopolitique. Je pense que dans les années 70, il n'est pas tellement facile, sauf peut-être chez certains universitaires d'un point de vue historique, de trouver des références à la géopolitique. On ne parlait pas de géopolitique dans la presse, par exemple.
Bien, Thierry de Montbrial, je vous propose de marquer une première pause dans cette émission Éclairage. Thierry de Montbrial, directeur général de l'Institut français des relations internationales, qui est notre invité aujourd'hui. À tout de suite.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez.
Vous écoutez Canal Académie.
Nous parlons donc de géographie politique avec l'invité d'éclairage aujourd'hui, Monsieur Thierry de Montbrial, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, directeur général de l'Institut français des relations internationales, qui vient de recevoir le Grand Prix 2003 de la Société de géographie. Alors Thierry de Montbrial, qu'est-ce qui bouge le plus aujourd'hui en matière de géographie? Est-ce que le phénomène humain mérite particulièrement notre attention? Les grands phénomènes, les grands mouvements humains à travers la planète au fil des dernières décennies.
Alors effectivement, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il y a des hésitations sur qu'est-ce qui est science, pas science, etc. Quand on parle des hommes, ça bouge tout le temps. C'est-à-dire que le propre des sciences de la nature, c'est de rechercher les invariances qui ne changent pas. Ce qui est permanent dans les lois de la physique, par exemple. Il est évident que lorsque nous parlons de géographie en général ou de géographie politique en particulier, ça bouge tout le temps. Et j'éprouve personnellement beaucoup de plaisir à collectionner et à regarder les ouvrages de géographie, justement, à travers les temps, à travers les siècles, parce que même d'ailleurs, soit les grands traités savants, soit même les ouvrages, les manuels. Par exemple, c'est très intéressant de regarder l'évolution des manuels scolaires en matière de géographie entre, mettons, la fin du 19e siècle et le début du 21e. Alors, qu'est-ce qui change ? Tout change, si ce n'est évidemment que le substrat physique de l'interaction entre l'homme et la Terre évolue plus lentement. Ça ne veut pas dire qu'il n'évolue pas. Pendant très longtemps, les géographes considéraient, même à Brodel, considéraient que ça ne changeait pas. Mais on sait bien qu'il y a 12 000 ans, une bonne partie de l'Europe était envahie par les glaces, par exemple. Et il est tout à fait possible que dans 10 000 ans... Et même avant, d'ailleurs, la France éternelle, bien la France éternelle sera peut-être un état semi-aride dans quelques milliers d'années et peut-être encore une fois plus tôt. Ça, il faut bien savoir ça quand on réfléchit. Et la dimension temporelle est tout à fait importante. Alors, ce qui change, c'est la démographie. La démographie, l'explosion démographique, c'est une banalité, mais encore faut-il le rappeler, c'est un phénomène sans précédent dans l'histoire de l'humanité qui a dominé le XXe siècle.
Il y a un chiffre vraiment parlant, hein, vous le dites. Il a fallu environ 17 siècles après Jésus-Christ pour que la population de la planète s'accroisse de 250 millions d'habitants, ce qui se passe aujourd'hui en 4 ans.
Voilà. Donc, cette explosion démographique, c'est quelque chose qui est absolument énorme du point de vue de ses conséquences. Je crois qu'il y a évidemment aussi l'explosion technologique. La science, la révolution scientifique, c'est relativement récent, puisque c'est le XVIe siècle. Bon, 4 siècles, c'est pas énorme au regard de l'histoire de l'humanité, mais le XXe siècle a connu un empilement de révolutions à la fois scientifiques et technologiques, avec d'ailleurs un raccourcissement de l'espace, de la durée entre les découvertes scientifiques et les réalisations. Du reste, aujourd'hui, vous constaterez que de plus en plus, il y a beaucoup de prix Nobel de physique, par exemple, ou de chimie, qui sont décernés à des gens qui travaillent dans des laboratoires industriels, et pas seulement dans les laboratoires industriels ou dans les laboratoires universitaires, ou en tout cas donc, des gens qui sont à l'interface entre la science et l'industrie. Alors, cette fabuleuse révolution des technologies de l'information dans tous les sens du terme. Et tout cela, évidemment, se traduit par une modification très profonde dans les rapports entre l'homme et la nature. Et ça, c'est le propre de la géographie. Et cela entraîne forcément un ensemble de problèmes praxéologiques. Hein, donc je répète, problèmes praxéologiques, c'est-à-dire au niveau de l'action, de l'interaction entre des unités actives et en particulier des unités politiques, dont certaines de ces interactions ou certains de ces problèmes sont tout à fait nouveaux. Je prends un exemple qui intéresse tout le monde, d'autant plus que les médias en parlent en permanence, pas toujours, me semble-t-il, de façon pertinente, c'est la question du changement climatique.
L'effet de serre.
Alors, l'effet de serre, c'est-à-dire la question du réchauffement de la température moyenne de la planète pour des causes dites anthropiques, c'est-à-dire en raison de l'activité humaine, cet effet de serre, aujourd'hui, personne ne le met en question. Il y a encore des débats sur la question de savoir quelle est la part réelle de l'action humaine par opposition au cycle de long terme naturel. Mais là où ça se corse et là où ça devient beaucoup plus difficile, c'est quand on cherche à comprendre la répartition territoriale justement de ces réchauffements. Ou d'ailleurs refroidissement, parce que ce n'est pas forcément un réchauffement uniforme. Et quand on cherche à réfléchir aux implications politiques qui en résultent, si l'accord de Kyoto n'a pas été concrétisé, c'est précisément parce qu'il n'y a pas d'accord évident sur la nature des difficultés résultant de ce phénomène.
Il y a une volonté politique de certains pays, mais pas une volonté globale, au moins sur les moyens d'y parvenir.
Volonté politique, je n'en suis pas sûr. Vous savez, de qui y aurait-il une volonté politique ? Il y a des discours, mais on est d'autant plus généreux en parole qu'on sait que les paroles ont peu de chances d'être traduites en actes. C'est souvent le cas. Mais là, si vous êtes russe, par exemple, et que vous faites l'hypothèse qu'il va y avoir un réchauffement de 2 ou 3 degrés de la Sibérie dans les 50 prochaines années, vous ne pleurez pas. Et les Chinois, les Russes, comme je viens de le dire, ne s'inquiètent pas particulièrement de l'effet de serre. Et quant aux Américains, qui sont des acteurs essentiels dans cette affaire, ne serait-ce qu'en raison de leur contribution aux émissions de gaz carbonique, etc., les Américains disent « mais nous n'en connaissons pas encore assez » pour pouvoir prendre de véritables décisions politiques. Et par conséquent, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut développer la recherche, elle scientifique, alors c'est-à-dire la connaissance des phénomènes, pour pouvoir ensuite prendre des décisions en meilleure connaissance de cause. Mais alors, quand on pousse la réflexion, on s'aperçoit que même si on connaissait... Alors, le premier stade dans un problème comme celui-là, c'est de bien comprendre les enjeux. Et je vous dis, ce n'est pas évident, ça suppose qu'il y a un élément de connaissance. Et là, j'insiste, véritablement scientifique. Mais ensuite, il y a un autre problème... qui est qui négocie sur quoi et comment. Et là, nous avons des éléments tout à fait nouveaux. On le voit déjà dire dans d'autres domaines, comme les négociations commerciales multilatérales. Vous savez, les grands cycles de négociations sur le commerce international. Tout le monde sait que Cancun, par exemple, a échoué récemment. Tout le monde se souvient de Seattle, parce que c'est à Seattle que, pour la première fois, les ONG ont fait finalement capituler des gouvernements devant des grandes négociations, par ailleurs assez ésotériques, qui sont les négociations commerciales multilatérales. Et pourtant, ce sont des choses qui intéressent tout le monde, mais qui sont devenues extrêmement compliquées, parce que comment 150 États peuvent-ils négocier entre eux ? Eh bien, la réponse est qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire à l'heure actuelle. Et donc, comme il va y avoir de plus en plus de problèmes de ce genre, je crois qu'il y a une modification importante des relations internationales, avec une dimension territoriale considérable, d'où la géographie politique, avec des visions idéologiques relatives au territoire qui sont extrêmement différentes. Et donc, nous allons avoir certainement, dans les années et les décennies qui viennent, un renouvellement assez substantiel des problèmes de géographie politique, mais sur un substrat méthodologique qui, lui, est fondamentalement invariant.
Thank you.
Alors, il y a la question de l'effet de serre, les problèmes de climat. On ne parlera pas de la vache folle, du SRAS, de la grippe aviaire, entre autres. Cela en fait partie. En tout cas, c'est une remise en question permanente pour les observateurs. Et vous le dites très bien, d'ailleurs, jamais la condition humaine n'a paru à la fois aussi puissante et aussi fragile.
Oui, je faisais d'ailleurs un hommage implicite, sans le citer, professeur Amburger, qui était membre de l'Académie des sciences et de l'Académie française, que j'ai eu l'honneur de connaître au début des années 90 et qui a écrit un petit livre qui avait un très beau titre, qui était « La puissance et la fragilité ». Moi, j'ai toujours été fasciné par la dialectique de la puissance et de la fragilité qui vaut pour les individus, d'ailleurs, comme pour les collectivités prises dans leur ensemble. Mais sur cette question, je voudrais aussi souligner un aspect important qui est dans la psychologie collective. Ce qu'on appelle la mondialisation a pour effet que, l'un des premiers effets de la mondialisation, c'est la diffusion de ce qu'on appelle l'information. Bon. Mais qu'est-ce que c'est que la diffusion de l'information ? La diffusion de l'information, ça veut dire que quand il y a 4 morts quelque part, un attentat à un endroit, un tremblement de terre à un autre, etc., le monde entier se trouve immédiatement informé de l'événement en question. Le résultat, d'ailleurs, c'est que si vous êtes français et que vous regardez le journal télévisé de 20h, que ce soit TF1, Antenne 2 ou un autre, vous voyez exactement les mêmes titres, la même série de catastrophes. On a envie de se jeter par la fenêtre quand on a regardé ça. Et moi, ce qui me frappe, c'est le manque total, d'ailleurs, de hiérarchisation des événements, de mise en perspective, comme si n'importe quel incident survenant à un endroit de la planète était susceptible d'avoir des répercussions sur le monde entier. Tout ça est absurde. Il y a donc une sorte de perversion de la mondialisation. Il y a un biais qui s'introduit, car en réalité, il n'y a pas ce degré d'homogénéisation dans la réalité auquel pourrait faire croire l'apparente homogénéisation de l'information. Et donc, j'en déduis que tout cela accroît l'angoisse des gens. Et si partout dans le monde, à chaque fois qu'il y a un incident quelque part, vous savez, quand on regarde un peu l'histoire de l'humanité dans son ensemble, l'histoire a toujours été tragique. Le début du XXe siècle a été épouvantable. Et si vous regardez l'histoire du XIXe siècle, du XVIIIe, si vous remontez à reculons dans l'histoire humaine, et si vous regardez toutes les atrocités qui ont été constamment commises partout et en tout lieu, je ne suis pas particulièrement convaincu que le monde dans lequel nous vivions soit aujourd'hui pire que celui dans lequel nous avons vécu. Il y a même beaucoup d'arguments en sens inverse. Mais par contre, tout le monde est convaincu qu'on vit dans un monde de plus en plus affreux, de plus en plus horrible. C'est-à-dire que l'angoisse augmente pour des raisons que je crois largement artificielles. Et ça doit être un problème ce problème-là mériterait de retenir davantage notre attention.
Bon, alors, l'ambition de votre démarche intellectuelle, philosophique, celle du chercheur, est de trouver un jour la clé de la condition humaine. Mais finalement, est-ce qu'on la trouvera un jour, cette clé ?
Oui, écoutez, je ne sais plus quoi dire devant une telle... Non, bien entendu, nous sommes tous, tout homme digne de ce nom doit s'interroger sur la condition humaine. Il s'interroge à des degrés divers. Ce que je crois, c'est que nous cherchons trop souvent la réponse au problème de la condition humaine dans de mauvaises directions. La réponse au problème de la condition humaine, on la trouve finalement dans les consciences. Ça pose tout le problème des rapports de l'homme, la religion et Dieu, le problème de Dieu, etc. Je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Mais en revanche, je crois que quand nous parlons, par exemple, d'une certaine façon du principe de précaution, ou quand nous parlons du principe du développement durable, nous introduisons d'une manière implicite des idées, et je n'hésite pas d'ailleurs à dire des idéologies, qui se réfère à des conceptions transcendantales implicites et, en l'occurrence, des conceptions transcendantales souvent caricaturales et qui reflètent aussi très largement l'angoisse humaine. Donc, je ne prétends évidemment pas, bien sûr, aborder de plein fond le problème de la condition humaine, mais en revanche, je crois qu'à travers certains concepts et qui ont aujourd'hui pignon sur rue, je pense typiquement au principe de précaution, nous introduisons sous des apparences objectives des considérations qui sont infiniment subjectives. Et ça, si vous voulez, nous pouvons le développer.
Alors, dans tous les cas, il faut savoir prendre son temps dans la réflexion et surtout développer le concept d'irréversibilité.
Oui, parce que prenons par exemple le concept de développement durable auquel je viens de faire allusion. Quand on regarde d'une manière très rigoureuse ce qu'il y a derrière ce concept de développement durable, on s'aperçoit que ce n'est absolument pas évident. Que l'on veuille laisser aux générations suivantes un héritage de bonne qualité, c'est très bien. D'ailleurs, toute famille digne de ce nom doit avoir cette préoccupation pour ses enfants et ses petits-enfants. Mais est-ce que cela implique que ce que l'on va laisser soit strictement identique à ce qui restait avant? C'est absurde. Et au nom de quoi devrait-on protéger toutes les espèces? Au nom de quoi? Si on pousse le raisonnement du non-changement à l'extrême, on tombe bien évidemment dans les absurdités. Alors si l'on pousse un peu plus encore la réflexion, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de construction sans destruction. Et que le vrai problème, à mon sens, c'est qu'avant de détruire quoi que ce soit, il faut y regarder de près. Et pour moi, c'est ça l'essence du concept de développement durable. Et c'est là qu'on retrouve d'ailleurs le principe de précaution. Il faut y regarder à deux fois. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas détruire. Parce que si vous refusez a priori de détruire, vous ne pouvez pas construire. Moi, je respecte, et bien entendu, les végétariens, mais les végétariens eux-mêmes mangent du vivant et par conséquent, ils détruisent.
Il faut savoir faire tabula rasa un moment.
Alors, il faut savoir faire de toute façon tabula rasa, on le fait. Mais je dis simplement, et ça, je crois que là, on tombe dans des considérations de sagesse universelle qui sont finalement à peine plus que le bon sens. Il faut savoir prendre son temps, en effet. Et je pense que quand on est devant un problème de changement, il faut bien regarder ce que l'on va détruire et il faut, en effet, regarder particulièrement ce qui peut être irréversible. Parce que si je prends une carafe d'eau et que même une belle carafe de cristal de baccarat ou autre et que je la casse, c'est embêtant, mais ce n'est pas dramatique parce que je peux éventuellement la remplacer. Là où ça devient plus ennuyeux, c'est quand on détruit, mais quand on ne peut pas reconstruire ce qui a été détruit. Ça, c'est le problème de l'irréversibilité. Et en même temps, toute la vie elle-même et tout ce qui est de l'ordre de la nature, ça, c'est le mystère du temps, le problème du temps, chronos, est intimement lié à la notion d'irréversibilité. Donc, il n'y a pas de clé universelle. Et c'est ce que je dis, effectivement, dans le texte auquel vous faites allusion, c'est que si on avait la clé, on aurait la clé de la condition humaine, parce que si on avait la clé du problème du temps, on aurait évidemment la clé de la condition humaine, et on ne l'a pas, et faute de l'avoir, eh bien, il n'est pas mauvais de faire appel de temps en temps à des notions de bon sens, mais je crois qu'il faut faire attention aussi au totalitarisme de certaines idéologies, et je crois que parfois le développement durable ou le principe de précaution sont utilisés dans des sens tout à fait déraisonnables.
Alors les principes et l'action au quotidien pour Thierry de Montbrial, c'est l'Institut français des relations internationales, et puis les livres La géographie politique pour comprendre les fondements et les évolutions du monde, Dimension prospective pour comprendre effectivement le siècle qui s'ouvre. C'est en quelque sorte l'objectif de votre dernier ouvrage publié chez Dunod, 15 ans qui bouleversèrent le monde de Berlin à Bagdad. Nous sommes là directement plongés dans le sujet, dans l'application de ce dont nous parlons depuis le début de l'émission. Et puis je recommanderais également un autre ouvrage publié il y a quelque temps, Dictionnaire de la stratégie, car la géographie politique c'est aussi la stratégie. Ça fera d'ailleurs l'objet, monsieur de Montbrial, d'autres émissions. Mais après ces 15 années dont vous faites référence, hein, de Berlin à Bagdad, entre la chute du mur et la dictature de Saddam Hussein, après ces 15 années qui bouleversèrent le monde, quelles sont selon vous aujourd'hui les questions, ou au moins les questions qui vont dominer le 21e siècle ?
Le 21e siècle, bon, un siècle, c'est très court par rapport à certaines des questions que nous avons évoquées au cours de cette émission, mais enfin, en même temps, c'est très long. Quelqu'un qui n'aurait posé au début du 20e siècle, mettons en 1904, quels seraient les grands problèmes du 20e siècle, et je pense qu'il aurait dit beaucoup de bêtises, donc je ne vais pas essayer de spéculer sur ce que sera le monde en 2100. Mais je pense que la première des priorités aujourd'hui, c'est d'essayer de nous organiser mieux collectivement, toujours mieux collectivement, pour que les conflits qui font partie de la nature des relations entre ce que j'appelle donc les unités actives ou les unités politiques, pour que ces conflits soient résolus de la manière la plus pacifique possible. Et ça, il ne suffit pas d'incantations idéologiques, il ne suffit pas de déclarations de bonne volonté. Je crois que l'organisation des relations entre les sociétés humaines, c'est quelque chose qui s'étudie, c'est quelque chose qui s'expérimente et c'est quelque chose qui se veut. Et donc,
Mais tous les hommes ne le veulent pas.
Tous les hommes ne le veulent pas, mais c'est là où les institutions sont importantes, parce que les caractéristiques fondamentales de l'homme, par exemple la tendance, la propension à la violence, mettons, tout cela, ça fait partie justement de la condition humaine. Et au niveau individuel, ça prend des formes qui, à la limite, sont des formes, disons, médicales, psychiatriques, etc. Mais en revanche, les institutions peuvent être élaborées et conçues pour canaliser ces forces, ou ces forces, si vous voulez, du mal, pour employer une expression un peu forte, et pour éviter leur débordement. Et moi, je suis, de ce point de vue-là, un militant de la notion de modération. La notion de modération ne signifie pas l'immobilisme, c'est tout le contraire de l'immobilisme, mais je crois qu'il faut rechercher systématiquement les modes d'organisation qui permettent d'éviter les extrêmes, de contenir les débordements, etc. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que je ne crois pas qu'il soit possible d'éviter totalement les débordements, de même que les tremblements de terre existent, hélas, épisodiquement, mais je pense qu'on peut organiser les sociétés humaines beaucoup mieux, et c'est tout l'enjeu de la construction européenne, parce que c'est ça que nous sommes en train d'expérimenter à l'échelle limitée, mais déjà assez ambitieuse, de l'Europe.
Alors je terminerai justement volontiers en vous citant Thierry de Montbrial. L'art de la prospective ou de la stratégie ne consiste pas à prédire l'avenir, mais à raisonner sur l'incertitude. Quel challenge ?
Oui, parce que la plupart des gens... Bon, ça nous ramène toujours à ce thème de la condition humaine. Les gens sont toujours à la recherche de personnes qui vont les rassurer, évidemment, qui vont leur dire l'avenir, et si possible, un avenir qui soit plutôt rose que noir. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et je crois que l'incertitude est inéliminable. Et du reste, quand on y réfléchit bien, on peut se demander ce qui est le plus terrifiant entre l'incertitude ou la certitude. Si on connaissait parfaitement l'avenir, outre le fait que le monde ne serait pas le monde, ce serait peut-être particulièrement horrible. Donc la question de l'incertitude est inéliminable. Il y a un très grand auteur français qui a d'ailleurs écrit de fort belles choses là-dessus, et qui était Paul Valéry. Il a beaucoup réfléchi sur cette question. Et le propre de la stratégie, le propre d'ailleurs de la praxéologie, pour reprendre mon terme, la science de l'action, c'est en effet de réfléchir le plus rationnellement possible à sur l'incertitude. Et l'incertitude, c'est pas seulement le domaine du probabilisable. Le probabilisable, c'est déjà un mode très cerné de l'incertitude, mais là encore, il est dans la nature humaine et dans la nature du monde qu'une bonne part de l'incertitude ne soit pas probabilisable, tout simplement parce que le monde n'est jamais identique à ce qu'il était, et là nous revenons au thème de l'irréversibilité.
Eh bien tout cela pour dire qu'entre la géographie en général et la géographie politique en particulier, vous noterez que je n'ai pas employé le mot géopolitique, eh bien les perspectives sont grandes. Merci infiniment monsieur Thierry de Montbrial, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, directeur général de l'Institut français des relations internationales, et je rappellerai donc ce prix qui vient couronner entre autres votre travail, Grand Prix 2003 de la Société de géographie. À très bientôt monsieur, merci.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.